Platon, La République, livre cinquième. Voilà quelle est, dans l'État et dans l'homme, la forme de gouvernement que j'appelle légitime et bonne. Si celle-là est bonne, je dis que les autres sont mauvaises, et pour administrer les États, et pour régler les mœurs des individus. On peut les réduire à quatre. Quelles sont-elles? Dit Glaucon. J'allais en faire le dénombrement dans l'ordre où elles paraissaient sortir les unes des autres, lorsque Polémarque, qui était assis à quelque distance d'Adimante, avançant la main, le tira doucement par le manteau à l'endroit de l'épaule, et, se penchant vers lui, lui parla à l'oreille. Nous n'entendîmes que ces mots. Le laisserons-nous passer outre? Point du tout, répondit Adimante, élevant déjà la voix. Que voulez-vous donc ne pas laisser passer? Leur dis-je. Toi-même, dit-il. Moi? Et pour quelle raison? Il nous semble que tu y mets un peu de paresse, et que tu nous dérobes une partie de cet entretien, qui n'est pas la moins intéressante, pour ne pas avoir d'explication à donner. Tu as cru nous échapper en disant, d'une manière légère, qu'à l'égard des femmes et des enfants, il était évident pour tout le monde qu'il y aura communauté, comme entre amis. Et n'ai-je pas eu raison, Adimante? Oui, mais ce point sur lequel tu as raison a, comme les autres, besoin d'explication. Cette communauté peut se pratiquer de plusieurs manières. Dis-nous donc, quelle est celle que tu as en vue? Il y a longtemps que nous attendons, avec l'espoir que tu te souviendras enfin de la procréation des enfants, de la manière de les élever, en un mot, de tout ce qui se rapporte à cette communauté de femmes et d'enfants. Car nous sommes persuadés que, bien ou mal établie, elle est d'une grande conséquence, ou plutôt qu'elle décide de tout pour la société. Maintenant que tu passes à l'examen d'une autre forme de gouvernement, avant d'avoir suffisamment développé cet article, nous avons résolu, comme tu viens de l'entendre, de ne pas te laisser aller plus loin que tu n'aies expliqué tout cela, comme tu as fait le reste. Et moi, dit Glaucon, je vote avec eux. Oui, Socrate, dit Thrasymaque, sache bien que c'est un parti pris par tout le monde. Qu'avez-vous fait? Repris-je, en vous emparant ainsi de moi. Dans quelle discussion allez-vous encore m'engager? Je me félicitais d'être sorti d'un mauvais pas, heureux qu'on voulût bien s'en tenir à ce que j'ai dit alors. Quand vous ramenez ce sujet, vous ne savez pas quel essaim de nouvelles disputes vous allez réveiller. Je le voyais bien, mais je l'évitais, de peur qu'il ne causât trop de tumulte. Comment? Crois-tu, dit Thrasymaque, que nous soyons venus ici pour fondre de l'or et non pour entendre des discours? Oui, repris-je, mais des discours qui aient quelque mesure. La mesure de semblables entretiens, dit Glaucon, est la vie entière pour des hommes sensés. Mais laisse-nous le soin de ce qui nous regarde. Songe seulement à ne jamais te lasser de répondre à nos questions, et de nous dire ta pensée sur la manière dont la communauté des femmes et des enfants s'établira entre les gardiens de l'État, et sur la manière dont l'enfance sera élevée dans l'intervalle de temps qui sépare la naissance de l'éducation proprement dite, époque où les enfants exigent les soins les plus pénibles. Essaie de nous dire comment il faudra s'y prendre. Cela n'est pas facile, cher Glaucon. Ce que j'ai à dire trouvera encore moins de créance dans les esprits que ce que nous avons dit jusqu'à présent. On ne croira pas que la chose soit possible, et la possibilité démontrée, on ne croira pas qu'elle valût grand-chose. J'hésite donc à dire ma pensée. Je crains, cher ami, qu'on ne la prenne pour un vain souhait. Ne crains rien. Tu parles à des gens qui ne sont ni déraisonnables, ni obstinés dans leur incrédulité, ni mal disposés à ton égard. Excellent jeune homme. N'est-ce pas pour me rassurer que tu me parles de la sorte? Oui. Eh bien, tes paroles produisent un effet tout contraire. Si j'étais sûr moi-même de ce que je vais dire, ton exhortation eût été parfaitement à sa place. On parle librement et avec confiance devant des personnes sages et qui nous sont bienveillantes, lorsqu'on croit qu'on leur dira la vérité sur des matières importantes et qui les intéressent. Mais lorsque l'on parle, comme je le fais, avec doute et en cherchant encore, il est dangereux et on doit craindre, non de faire rire, cette crainte serait puérile, mais de s'écarter du vrai et d'entraîner avec soi ses amis dans l'erreur sur des choses où l'erreur est funeste. Ô Glaucon, je conjure Adrastée de faire grâce à ce que je vais dire, car je crains que ce ne soit un moindre crime de tuer involontairement quelqu'un que de le tromper sur le beau, le bon, le juste et les lois. Aussi vaut-il mieux encourir le danger avec ses ennemis qu'avec ses amis. Voilà pourquoi tu as tort de me presser. Socrate, reprit Glaucon en souriant, si tes discours nous jettent dans quelque erreur, nous nous désisterons de toute action contre toi, comme dans le cas d'homicide, et nous t'absoudrons du crime de nous avoir trompés. Parle donc sans crainte. À la bonne heure. Puisque dans le premier cas, on est déclaré innocent au terme de la loi, quand il y a désistement, dans le cas actuel, il est assez probable qu'il doit en être de même. C'est une raison de plus pour toi de parler. Je vais donc reprendre maintenant un sujet qu'il eût peut-être mieux valu traiter de suite, quand l'occasion s'en est présentée. Aussi ne sera-t-il pas hors de propos qu'après avoir déterminé dans toutes ses parties le rôle des hommes, nous déterminions aussi celui des femmes. D'ailleurs, tu m'y invites. Les hommes, nés et élevés comme nous avons dit, n'ont rien de mieux à faire, selon moi, touchant la possession et l'usage des femmes et des enfants, qu'à suivre la route que nous avons tracée en commençant. Or, nous avons représenté les hommes comme les gardiens d'un troupeau. Oui. Suivons cette idée. En donnant aux enfants une naissance et une éducation qui y répondent, et voyons si cela nous réussira ou non. Comment? Le voici. Croyons-nous que les femelles des chiens doivent veiller comme eux à la garde des troupeaux, aller à la chasse avec eux et faire tout en commun, ou bien qu'elles doivent se tenir au logis, comme si la nécessité de faire des petits et de les nourrir les rendait incapables d'autre chose, tandis que le travail et le soin des troupeaux seront le partage exclusif des mâles. Nous voulons que tout soit commun. Seulement, dans les services qu'on réclame, on a égard à la faiblesse des femelles et à la force des mâles. Peut-on tirer d'un animal les services qu'on tire d'un autre s'il n'a été nourri et dressé de la même manière? Non. Par conséquent, si nous réclamons des femmes les mêmes services que des hommes, il faut leur donner la même éducation. Sans doute. Les hommes ont appris la musique et la gymnastique. Oui. Il faudra donc appliquer aussi les femmes à l'étude de ces deux arts, les former au métier de la guerre et les traiter en tout de même que les hommes. C'est une conséquence de ce que tu dis. Mais peut-être beaucoup de ces choses, parce qu'elles sont contraires à l'usage, paraîtraient-elles ridicules si on en venait à l'exécution? Très ridicule. Mais laquelle le serait le plus à tes yeux? Ne serait-ce pas de voir des femmes nues s'exercer au gymnase avec des hommes? Je ne dis pas seulement les jeunes, mais les vieilles, à l'exemple des vieillards qui aiment encore ces exercices, quoique ridés et désagréables à voir. Oui, certes, dans nos mœurs, cela paraîtrait du dernier ridicule. Mais puisque nous avons une fois commencé, moquons-nous de toutes les railleries que les beaux esprits ne manqueront pas de faire en voyant une pareille innovation. Des femmes se livrer aux exercices gymniques et à la musique, apprendre à manier les armes et à monter à cheval. Bien. Puisque nous avons commencé, dis-je, Abordons directement ce que cette institution a de choquant. À cet effet, conjurons ces railleurs de quitter leur rôle et d'être un peu sérieux. Rappelons-leur qu'il n'y a pas longtemps que les Grecs croyaient encore, comme le croient aujourd'hui la plupart des peuples barbares, que la vue d'un homme nu est un spectacle honteux et ridicule. Lorsque les Crétois d'abord, et ensuite les Lacédémoniens, donnèrent l'exemple des exercices à nu, les plaisants de ce temps-là pouvaient bien faire des railleries sur tout ce qu'ils y voyaient. Qu'en penses-tu? Je le crois. Mais lorsque l'expérience eut fait voir qu'il était mieux d'avoir le corps nu qu'habillé dans les exercices gymniques, la raison, en découvrant ce qui était le plus convenable, a dissipé le ridicule que les yeux attachaient à la nudité. Elle a montré qu'il n'y a qu'un homme superficiel qui trouve du ridicule autre part que dans ce qui est mauvais en soi, qui cherche à faire rire en prenant pour objet de ses railleries autre chose que ce qui est déraisonnable et vicieux, et qui poursuit sérieusement un autre but que le bien. Cela est vrai. Ne devons-nous pas décider d'abord entre nous si ce que nous proposons est possible ou non, et donner à qui voudra, homme plaisant ou sérieux, la liberté d'examiner si la femme est capable des mêmes exercices que l'homme, ou si elle n'en peut partager aucun avec lui, ou enfin si elle est capable des uns et incapable des autres, pour voir ensuite dans quelle classe il faut ranger les exercices de la guerre. N'est-il pas vraisemblable qu'en commençant aussi bien, on finira de même? Assurément. Veux-tu que nous nous chargions de faire valoir les raisons de nos adversaires pour ne pas assiéger une place sans défense? Rien n'empêche. Voici donc ce qu'ils pourraient nous dire. Socrate et Glaucon, vous n'avez pas besoin d'autres contradicteurs que vous-même. Vous êtes convenus, lorsque vous jetiez les fondements de votre État, que chacun devait remplir l'unique fonction qui est assortie à sa nature. Nous en sommes convenus, il est vrai. Se peut-il qu'il n'y ait pas une extrême différence entre la nature de l'homme et celle de la femme? Comment n'y aurait-il pas de différence entre elles? Il convient donc d'assigner à l'homme et à la femme des fonctions différentes selon leur nature. Sans contredit. Comment donc ne serait-ce pas de votre part une erreur et une contradiction manifeste de dire que les hommes et les femmes doivent remplir les mêmes fonctions malgré la grande différence de leur nature? Cher Glaucon, aurais-tu quelque chose à répondre à cela? Répondre sur le champ ne serait pas aisé, mais je te prierai, et je te prie en effet, de te charger de nous défendre, comme tu voudras, Socrate. Il y a longtemps, mon cher ami, que j'avais prévu cette objection, et beaucoup d'autres semblables. Voilà pourquoi j'hésitais et me refusais à aborder la loi sur la possession et l'éducation des femmes et des enfants. Non, par Jupiter, cela n'a pas l'air facile. Vraiment non. Mais écoute, qu'un homme tombe dans un petit étang ou en pleine mer, il ne laisse pas de nager. Oui. Eh bien, mettons-nous aussi à la nage pour nous tirer de cette aventure. Qui sait si nous ne rencontrerons pas quelque dauphin pour nous porter, ou quelque autre secours merveilleux? Allons, soit. Voyons si nous trouverons quelque part le moyen de sortir d'embarras. Nous sommes convenus que les natures différentes doivent avoir des fonctions différentes. Nous reconnaissons d'ailleurs que l'homme et la femme sont d'une nature différente. Et néanmoins, nous voulons que l'un et l'autre remplissent les mêmes fonctions. N'est-ce pas là l'objection? Oui. En vérité, Glaucon, l'art de la dispute a un merveilleux pouvoir. Que veux-tu dire? Il me semble qu'on s'y laisse engager souvent sans le vouloir, et lorsqu'on croit seulement discuter. C'est que, faute de distinguer les différents sens d'une proposition, on en tire des contradictions apparentes, suivant le sens littéral, et l'on chicane, au lieu d'employer la dialectique. C'est, En effet, l'habitude d'une foule de personnes. Mais cela nous regarderait-il en ce moment? Oui, sans doute. Et je crains que nous ne soyons entraînés, malgré nous, dans la dispute. Comment? Nous nous attachons bravement, et en vrais disputeurs, à la lettre de cette proposition, que des natures différentes entraînent différentes fonctions. Tandis que nous n'avons pas examiné le moins du monde, de quelle espèce de différence et d'identité il s'agit, et dans quel sens nous avons assigné des fonctions différentes aux natures différentes, et les mêmes fonctions aux mêmes natures. Il est vrai que nous n'avons pas examiné cela. Dès lors, il ne tient qu'à nous de demander si les hommes chauves et les hommes chevelus ont la même nature ou une nature différente. Et quand nous aurons reconnu qu'ils ont une nature différente, si les chauves font le métier de cordonnier, nous l'interdirons aux chevelus, et réciproquement. Mais une pareille défense serait ridicule. Pourquoi? N'est-ce point parce qu'en posant notre règle générale, nous n'entendions pas établir d'une manière absolue la différence et l'identité des natures, et que nous ne considérions leurs différences et leurs ressemblances que par leur rapport avec les mêmes fonctions. Par exemple, n'est-ce pas ainsi que nous disions de même nature le médecin et l'homme qui a la vocation de la médecine? Oui. Et de nature différente, l'homme qui a la vocation de la médecine est le charpentier. Sans doute. De même, si nous trouvons que la nature de l'homme diffère de celle de la femme, par rapport à certains arts et à certaines fonctions, nous conclurons qu'il faut attribuer cet art ou cette fonction à l'un ou à l'autre. Mais si la différence des deux sexes consiste en ce que le mâle engendre et la femelle enfante, nous ne regarderons pas pour cela, comme une chose démontrée, que la femme diffère de l'homme dans le point dont il s'agit, et nous n'en persisterons pas moins à croire que les gardiens de l'État et leurs femmes doivent remplir les mêmes fonctions. Nous aurons raison. Maintenant, demandons à notre contradicteur quel est dans l'État l'art ou la fonction pour laquelle les femmes n'aient pas reçu de la nature les mêmes dispositions que les hommes. Cette demande est juste. Peut-être nous répondra-t-il ce que tu disais tout à l'heure, qu'il n'est pas aisé de nous satisfaire sur le champ, mais qu'en y réfléchissant, cela ne serait pas difficile. Il pourrait bien nous faire cette réponse. Prions, si tu veux, cet adversaire de nous suivre, tandis que nous tâcherons de lui montrer qu'il n'est dans l'État aucune fonction qui soit exclusivement propre aux femmes. J'y consens. Réponds, lui dirons-nous. La différence entre celui qui a des dispositions naturelles pour faire une chose et celui qui n'en a point consiste-t-elle, selon toi, en ce que le premier apprend aisément, le second avec peine? Que l'un, avec une légère étude, porte ses découvertes bien au-delà de ce qu'on lui a enseigné, tandis que l'autre, avec beaucoup d'études et d'applications, ne peut pas même retenir ce qu'il a appris. Enfin, en ce que dans l'un le corps seconde l'esprit, et dans l'autre il lui fait obstacle? Est-il d'autres signes par lesquels tu distingues les dispositions heureuses pour certaines choses des dispositions contraires? Tout le monde dira que non. Connais-tu quelques professions humaines où l'homme ne se montre sous tous ses rapports bien supérieur à la femme? Et est-il besoin de nous arrêter à quelques exceptions, aux ouvrages de laine, à l'art de faire des gâteaux et d'apprêter certains mets, travaux où, je l'avoue, la femme se distingue et ne saurait nous le céder sans une honte infinie? Tu as raison de dire qu'en tout, pour ainsi dire, l'homme a une supériorité marquée sur la femme. Ce n'est pas que beaucoup de femmes ne l'emportent sur beaucoup d'hommes en beaucoup de points. Mais En général, la chose est comme tu dis. Ainsi, mon cher ami, il n'est point dans un état de fonction exclusivement affectée à l'homme ou à la femme à raison de leur sexe, mais les deux sexes participent des mêmes facultés. Et la femme, ainsi que l'homme, est appelée par la nature à toutes les fonctions. Seulement, en toutes, la femme est inférieure à l'homme. Très bien. Imposerons-nous donc toutes les fonctions de l'État aux hommes et aucune aux femmes? Quelle en serait la raison? N'est-il pas, dirons-nous plutôt, des femmes qui naturellement sont propres à la médecine et à la musique, et d'autres qui ne le sont pas? Oui. N'est-il pas aussi des femmes qui sont propres aux exercices gymniques et militaires, et d'autres qui ne le sont point? Je le pense. N'est-il pas enfin des femmes philosophes et des femmes courageuses, et d'autres qui ne sont ni l'un ni l'autre? Oui. Il y a donc des femmes qui sont propres à veiller à la garde de l'État, et d'autres qui ne le sont point. N'avons-nous pas déjà déterminé en quoi consiste ce genre d'aptitude à l'égard des hommes que nous avons appelés gardiens? Oui. Donc chez la femme comme chez l'homme, il y a une même nature propre à la garde de l'État. Il n'y a de différence que du plus au moins. Cela est évident. Voilà les femmes que les guerriers doivent choisir pour en faire leurs compagnes et partager avec elles la garde de l'État, parce qu'elles en sont capables et que leur nature est semblable à celle des guerriers. Tout à fait. Et ne faut-il pas assigner les mêmes fonctions aux mêmes natures? Les mêmes. Ainsi, nous revenons, par un détour, au point d'où nous sommes partis, et nous reconnaissons qu'il n'est pas contre nature d'appliquer les femmes des guerriers à la musique et à la gymnastique. Oui, nous le reconnaissons. La loi que nous établissons, étant conforme à la nature, n'est donc ni une chimère, ni un vain souhait. C'est bien plutôt l'usage opposé qu'on suit aujourd'hui qui semble contraire à la nature. On le dirait, oui. N'avions-nous pas à examiner si notre institution était possible et en même temps avantageuse? Oui. Or, nous venons de voir qu'elle est possible. Oui. Il nous reste à nous convaincre qu'elle est avantageuse. Évidemment. La même éducation ne forme-t-elle pas, et l'homme et la femme, aux fonctions de gardien de l'État, puisqu'elle reçoit de la nature les mêmes dispositions à cultiver? Sans doute. Quelle est ton opinion sur ceci? Sur quoi? Crois-tu que les hommes sont inégaux en mérite, ou qu'il n'y a entre eux aucune différence? Je les crois fort inégaux. Dans l'état que nous fondons, lequel vaut mieux à ton avis? Ou le guerrier qui aura reçu l'éducation dont nous avons parlé, ou le cordonnier élevé dans sa profession? Tu me fais une question ridicule. J'entends. Les guerriers ne sont-ils pas l'élite des citoyens? Assurément. Leurs femmes ne seront-elles pas aussi l'élite des femmes? Oui. Mais est-il rien de plus avantageux à un État que d'avoir beaucoup d'excellents citoyens de l'un et de l'autre sexe? Non. Ne parviendront-ils pas à ce degré d'excellence en cultivant la musique et la gymnastique ainsi que nous avons dit? Oui. Notre institution n'est donc pas seulement possible, elle est ce qu'il y a de plus avantageux à l'État. Tu as raison.